This is Radio Free Europe.
Benvenutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Iran, bien sûr, après cette double attaque aujourd'hui à Téhéran, au Parlement, puis au mausolée Khomeini. On en parlera avec notre consoeur de France 24, Mariam Pirzadeh. Nous serons aussi à Berlin, coup d'œil à la campagne des législatives allemandes. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde sur les relations américano-européennes. Et cette question, qui est le pire, Bush ou Trump? Mais d'abord, le mirage gay de Tel Aviv.
Michael Thébault. Un jour dans le monde.
C'est la semaine de l'année où la ville change totalement de physionomie. Une semaine de fêtes, de rencontres et de décibels. La semaine des fiertés LGBTI. Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes qui arrivent des quatre coins du monde pour en quelque sorte arc-en-cieliser Tel Aviv. Plus de 35 000 personnes dans les rues. Et ça fait près de 20 ans que la deuxième ville d'Israël a ainsi cette réputation de métropole gay-friendly. Une réalité, c'est vrai, mais une réalité fabriqué de toutes pièces, décisions politiques, économiques et marketing. C'est comme ça que l'explique sans concession et parfois crûment le journaliste et écrivain Jean Stern, militant gay de la première heure, de confession juive, et qui connaît par cœur Tel Aviv et sa Gay Pride. Bonsoir Jean Stern, merci d'être avec nous. Vous signez donc cette passionnante enquête intitulée « Mirage gay à Tel Aviv ». C'est aux éditions Libertalia. Alors on va évidemment expliquer pourquoi vous parlez de mirage. Mais d'abord, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, plantez-nous le décor, décrivez-nous ce Tel Aviv gay, que vous appelez même le « Boboland gay ».
Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en réalité, puisque vous avez une ville de 400 000 habitants, au cœur d'une agglomération de 3 millions d'habitants, qui devient une véritable principauté d'opérettes déco couleur gay pendant une semaine. Donc vous en avez partout, mais quand je dis partout, c'est partout. Hein. Des drapeaux, des décors, des fanions, des banderoles, etc. La ville devient totalement arc-en-ciel, avec ce qu'on appelle le rainbow flag, c'est-à-dire le drapeau qui symbolise la cause LGBT à travers le monde.
Alors ça, c'est effectivement le temps fort de l'année, cette semaine des fiertés, mais tout au long de l'année, il y a un vrai tourisme gay à Tel Aviv.
Il y a un vrai tourisme gay à Tel Aviv. Tel Aviv est devenue une top destination, comme on parle dans le marketing touristique, pour les gays du monde entier, et principalement, bien sûr, les gays occidentaux des États-Unis, d'Australie et d'Europe.
Alors justement, et ça je l'ai totalement appris grâce à vous, Jean Stern, c'est la construction ex nihilo volontaire de ce Tel Aviv gay, décision politique, économique, marketing, expliquez-nous.
Alors absolument, c'est très simple, hein. Au tournant des années 2000, l'image d'Israël dans l'opinion publique mondiale est à peine supérieure à celle de la Corée du Nord, pour des raisons qui sont quand même assez simples, qui sont liées à l'occupation de la Palestine, et aussi au fait que vous êtes dans une région qui est plutôt en guerre, une terre de conflit, et que d'une manière générale, il y a eu un durcissement dans le monde arabo-musulman de la politique à l'égard des homosexuels. Donc personne n'a envie d'aller en Israël, sauf si éventuellement on est de la famille, ou sauf si on est un croyant très pratiquant et qu'on veut aller faire un pèlerinage à Jérusalem. Donc Israël a besoin de changer son image et va chercher des atouts. Elle n'en a que deux, en fait, en réalité, à l'époque. C'est l'high-tech, qui est une espèce de signe de modernité. Les ingénieurs israéliens sont extrêmement bien formés, les développeurs aussi. Et donc, Google, Microsoft, Apple, etc. vont tous ouvrir des filiales, des labos de recherche et tout. Filiales labos de recherche qui, par parenthèse, sont stimulées par la recherche liée à la défense israélienne. Vous le savez sans doute, mais l'armée israélienne est une des premières au monde et le marché des armes en Israël est un des marchés les plus importants pour les exportations israéliennes. Mais bon, disons que c'est pas très sexy de vendre des ingénieurs, des développeurs, etc. Par contre, la vie gay de Tel Aviv, les atouts balnéaires de la ville qui est au bord de mer, est évidemment beaucoup plus sexy et donc des agences de marketing, spécialisées d'ailleurs dans le marketing gay, qui s'appelle Outno à Amsterdam, vont conseiller le gouvernement israélien, la mairie de Tel Aviv, le syndicat des hôteliers, pour investir en direction du public gay à partir de 2008-2009. Et effectivement, Tel Aviv, alors c'est un des paradoxes de l'histoire, vous allez me dire, mais pourquoi Tel Aviv est devenu une ville gay? Qu'est-ce qui a fait que Tel Aviv est devenu une ville gay? C'est deux phénomènes. D'abord, l'homophobie de la société israélienne, qui fait que beaucoup de gays sont venus de tout Israël et sont montés à Tel Aviv. Et deuxièmement, un développement, une idéologie liée, pour le coup, au sionisme. Le sionisme il est né d'une idée, de plusieurs idées évidemment, mais parmi ces plusieurs idées, il y en avait une qui était assez simple, il faut changer le juif européen, il faut changer le juif moyen-oriental, le juif européen ne pensait qu'à la prière, le juif moyen-oriental ne pensait qu'à chanter, Ben Gourion employait le terme, ce qui est assez extraordinaire, il fallait muscler le juif, il fallait viriliser le juif. Et à travers ça, il y avait deux institutions, à partir de 48, naissance de l'État d'Israël, qui ont servi à ça, d'abord le kibboutz, où bah, on travaillait la terre, et rudement...
Et avec une image aussi de virilité.
Bien sûr, une iconographie. Je publie dans mon cahier photo du livre une image qui représente très bien ça. Donc on virilisait les juifs, on, d'une certaine manière, on les extirpait de la religion. N'oubliez pas que ces gens-là étaient à la fois sionistes et socialistes, hein, et que donc leur grand ami c'était Staline. Et donc on retrouve dans tout l'Israël des années 50 beaucoup de choses communes avec l'Union soviétique de l'époque, dans l'iconographie.
Mais à quel moment se fait le virage entre cette mythologie, cette iconographie très politique, très socialiste, et puis la communauté gay.
Dans les années 90, en fait, petit à petit, ce culte du corps, ce culte de la musculité, ce culte de la virilité, qui devenait une valeur centrale aux yeux des sionistes et de l'armée israélienne, eh ben, ça produit ça. Et on peut dater les choses de manière assez précise. Hein. Les années 90, l'armée israélienne est la deuxième armée au monde à donner des droits aux gays, juste après celle des Pays-Bas, pays de la tolérance, s'il en est, enfin, jusqu'à une époque récente, on va dire, en tout cas.
Si on revient à ce que vous appelez, ce qu'ils appellent eux-mêmes, en Israël, le brand israélien, Israël, vendre la marque Israël. Ouais. Il y a un homme clé que vous nous faites découvrir, c'est Ido Aharoni.
Absolument. Ido Aharoni est un diplomate qui a été en poste à New York, qui a été en poste à Los Angeles, au consulat israélien à Los Angeles. Et lui a développé toute une stratégie marketing. C'est lui qui l'a construit. C'est lui qui a conseillé, à l'époque, la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, qui est toujours une femme politique israélienne, qui elle-même savait très bien que l'image d'Israël était mauvaise à l'extérieur, puisqu'elle avait été agent du Mossad dans sa première vie et qu'elle avait été en poste à Londres et à Paris. Donc elle n'ignorait rien des problèmes d'image d'Israël. Et donc, ben, ils ont travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, ils se sont appuyés sur des agences de publicité mondiale, bien évidemment. Mais leur modèle, ça a été Rio de Janeiro. C'est-à-dire, ils ont été voir Rio et ils se sont dit, comment ça se fait que Rio, pays violent s'il en est, etc., est en même temps, aux yeux de pas mal de touristes, un paradis, si sex and sun. Et en gros, cette image si sex and sun, ils se sont dit, c'est formidable de l'appliquer à Tel Aviv, parce que c'est vrai. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, et qu'en même temps, ça permet évidemment de masquer l'opération. On a appelé ça le pinkwashing, et le pinkwashing, c'est vraiment, c'est lave plus rose.
On repeint en rose, voilà.
Ouais, on repeint en rose, on lave plus rose, et d'une certaine manière, il faut reconnaître que cette opération a bien fonctionné.
Le marketing a été efficace. Alors justement, on arrive au cœur de votre sujet. Pourquoi le mirage? Qu'est-ce que cache cet écran de fumée? C'est quoi le but politique réel, finalement?
Ah, bah, le but politique réel, il est clair, hein. C'est d'améliorer l'image d'Israël aux yeux de l'opinion internationale. Et ce que ça cache, bah, c'est trois choses. Ça cache d'abord l'occupation, hein. C'est-à-dire que Israël, aujourd'hui, est un pays qui mène une guerre et qui est condamné aux yeux de la communauté internationale. Il y a eu encore un vote récent, le dernier vote, entre guillemets, d'Obama, d'une certaine manière, au Conseil de sécurité, pour condamner la colonisation. Ça cache la colonisation. Ça cache aussi l'homophobie de la société israélienne.
Qui reste très très forte.
Très très forte. Alors là, c'est absolument incroyable. Quand on regarde les chiffres, en gros en Europe et dans les pays occidentaux, on est entre 5 et 10% de la population qui considère que l'homosexualité est toujours une maladie. En Israël, c'est 47% et ce chiffre monte à 71%, c'est les religieux. Donc religieux qui représentent à peu près 30% de la population globale du pays. Donc vous voyez, il y a un décalage très fort entre ce qu'on nous vend à l'extérieur et la réalité. Et puis troisièmement, je dois dire, ça cache aussi l'oppression spécifique des gays palestiniens, qui est aggravée évidemment par Israël, qui condamne les gays palestiniens à un double enfermement. Enfermement dans une société extrêmement conservatrice et traditionnaliste, je vais pas repeindre la Palestine en rose, et c'est vrai que la Palestine est une société globalement homophobe, comme la plupart des pays arabo-musulmans, mais évidemment, pour un gay ou une lesbienne palestinien, il ne peut pas sortir ni de Gaza, ni des territoires occupés, et deuxièmement, et surtout, et c'est peut-être encore plus grave et encore plus hypocrite de la part du gouvernement israélien, eh ben, on surveille, on espionne les gays et les lesbiennes palestiniens, mais aussi d'ailleurs les hommes adultères, les joueurs, les alcooliques et tout, pour les soumettre à un chantage. Et si vous devenez collabo de l'armée israélienne dans les territoires occupés, si évidemment vous êtes repéré, c'est la mort assurée. Et si vous refusez d'être collabo et que l'armée israélienne vous dénonce à votre famille, au clan qui est l'unité sociale en Palestine, ben, c'est aussi souvent la mort assurée. Donc,
mais c'est ça, vraiment ça, en même temps, le gouvernement israélien le nie.
Le gouvernement israélien le nie, mais vous avez eu une pétition de 43 réservistes de l'unité 8200, qui est chargée de la surveillance dans les terres occupées, qui ont raconté cette histoire, qui ont témoigné. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, et ce que mon livre aussi révèle d'une certaine manière, c'est que tout est sur la table. Hein. En Israël, vous avez ce qui est une des qualités d'Israël, c'est une démocratie, et donc tout est sur la table, tout est public et tout. Il suffit d'aller chercher les sources, de les remettre en forme, et puis bien entendu, de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire un travail d'enquête, d'aller voir les gens, de leur parler, etc. Mais le gouvernement israélien niait totalement l'existence de surveillance électronique des Palestiniens jusqu'aux révélations de l'unité 8200 il y a 2 ans, et maintenant c'est sur la place publique évidemment.
Alors s'il est avéré qu'il y a effectivement cette oppression, d'abord psychologique mais pas seulement, hein, des autorités israéliennes sur les gays et lesbiens palestiniens, on va pas dire non plus que le Hamas est gay-friendly par exemple.
Ah ben pas du tout, c'est encore une fois, non seulement le Hamas n'est pas gay-friendly, mais la société palestinienne n'est pas gay-friendly et d'une manière générale, et Israël a utilisé ça dans son marketing aussi, le monde arabo-musulman, qui était plutôt, pour des tas de raisons historiques, on avait parlé de l'orientalisme homosexuel pendant toute une époque. Le Caire, par exemple, était jusqu'au début des années 2000 une destination où les gays allaient volontiers et où la vie gay était relativement ouverte. J'ai moi-même dansé dans des discothèques du Caire dans les années 80 et 90 sans aucun problème et les relations étaient pratiquement open avec les gays égyptiens. Donc, ce grand durcissement du monde arabo-musulman à l'égard de l'homosexualité, Israël, d'une certaine manière, en a fait un argument marketing. Vous voyez bien qu'on est mieux que les autres, puisque nous, au moins, on donne des droits aux gays. Mais il faut, là encore, établir la vérité. Les gays en Israël ont plutôt moins de droits que les gays en France, les gays en Belgique ou les gays en Espagne, notamment, par exemple, le droit au mariage, qui n'existe pas en Israël aujourd'hui, ni pour les gays, ni pour les hétéros, d'ailleurs, puisque, vous le savez sans doute, en Israël, le mariage dépend des rabbins exclusivement.
Arrêtez-moi si je me trompe, mais on sent presque de la déception, voire de l'amertume, quand vous interrogez des gays ou des lesbiennes dans la rue, sur la politique d'occupation et cette théorie du mirage, et qu'on vous répond « je ne sais pas » ou « oh, c'est très compliqué ».
Oui, c'est vrai, j'ai une certaine amertume, parce que j'appartiens à une génération pour qui le combat, l'engagement, la lutte pour la visibilité, d'une certaine manière, a compté dans les années 70 et 80, avec cet grand engagement qu'il y a eu de la communauté homosexuelle, notamment dans la lutte contre le sida, qui a été un moment collectif très fort, émotionnel très fort, et un moment de mobilisation, si vous voulez, des communautés gays, lesbiennes et au-delà d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on voit que les gays occidentaux, d'une manière générale, ils n'ont plus beaucoup envie de se poser de questions. Ils n'ont plus beaucoup envie de se poser de questions sur le destin des pauvres, sur le destin des opprimés et encore moins sur le destin des Palestiniens. Donc ils viennent faire du tourisme à Tel Aviv.
Ils viennent faire la fête d'abord.
Pas parler politique. Cette semaine à Tel Aviv, ils vont être 35 000 et tout au long de l'année, ils viennent tous les week-ends de Paris, de Madrid. Vous avez maintenant des compagnies low cost, c'est pas très cher, etc. Ils viennent faire la fête, ils viennent s'amuser, ils n'ont pas envie de voir la réalité de la société palestinienne qui est derrière le mur et qui est soigneusement d'ailleurs tenue à l'écart par Tel Aviv. Et donc, c'est vrai, Tel Aviv, on dit c'est une bulle. Et c'est vrai que c'est une bulle, vous pouvez passer 3 jours à Tel Aviv.
Un îlot de liberté.
Je ne dirais pas un îlot de liberté, parce que un îlot de liberté, ça voudrait dire qu'il n'y a pas du tout d'oppression à Tel Aviv. Or, il y a de l'oppression à Tel Aviv, il y a de l'oppression des migrants, il y a de l'oppression des Palestiniens, il y a de l'oppression des pauvres. N'oubliez jamais, parce que ce n'est pas exactement mon sujet, mais c'est quand même très important, Israël est devenu le deuxième pays occidental où les écarts de richesse se sont le plus creusés ces 20 dernières années, juste après le Mexique. Donc ça vous donne une idée aussi d'une société qui est devenue une société très dure avec les pauvres, les exclus en général.
Une dernière question, Jean Stern, et vous l'avez juste brièvement évoqué, sur Tsahal, sur l'armée israélienne. Donc, une armée dite gay-friendly, la deuxième après les Pays-Bas en 95. C'est vrai ou là encore c'est un mirage?
Ah, c'est très 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 vrai. L'armée israélienne d'ailleurs utilise son image gay-friendly, met en avant sa politique gay-friendly, organise des tournées de soldats de l'armée israélienne pour vendre aux États-Unis, notamment via des organisations qui s'appellent par exemple Stand With Us, des tournées pour vendre l'image LGBT gay-friendly de Tel Aviv. Il y a quelques jours, je viens de découvrir la source, donc elle n'est pas dans mon bouquin. Il y a même le premier officier de l'armée israélienne qui vient de faire une tournée à Seattle, qui était à Seattle début avril, pour vendre les charmes de l'armée israélienne et dire à quel point on pouvait être un officier et un trans dans l'armée israélienne.
Donc on retrouve cette même politique d'écran de fumée.
Exactement, exactement.
Merci beaucoup Jean Stern. Je rappelle le titre de votre enquête, Mirage gay à Tel Aviv, c'est aux éditions Libertalia.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde avec vous, Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Mickaël.
Et direction donc, bien sûr, l'Iran où deux attentats suicides ont été commis ce matin à Téhéran, au centre de la ville, dans des lieux particulièrement symboliques, Olivier.
Deux attaques quasi simultanées au Parlement iranien, puis au mausolée de l'Ayatollah Khomeini, deux lieux distants d'une vingtaine de kilomètres, sept ou huit assaillants, dont quatre déguisés en femmes, qui ont trouvé la mort dans l'enceinte du Parlement. Au total, 12 victimes et des dizaines de blessés. L'Iran, jusqu'ici épargné par ce type d'attaque, se retrouve frappé de plein fouet par le terrorisme. Mariam Pirzadeh, correspondante de France 24, est en ligne avec nous depuis Téhéran. Bonsoir Mariam.
Bonsoir.
Vous êtes rendue, Mariam, sur les lieux de la première attaque. Le périmètre autour du Parlement iranien est encore bouclé à l'heure actuelle.
Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, finalement, on peut accéder et voir cette façade du Parlement. Il y a des policiers en faction, des policiers en civil, on a pu voir des soldats de l'armée et quelques voitures de police très discrètes. Car c'est bien le mot d'ordre, rester discret. Et on voit bien, on a bien vu aussi ces Iraniens qui se rassemblent pour voir cette façade du Parlement avec ses vitres brisées, ses rideaux qui flottent au vent. Il y a une sorte de silence qui règne autour de ce Parlement. Mais on sent bien que les Iraniens sont sous le choc, car Daesh a frappé leur pays. Pour eux, c'était inimaginable. On ne se laissera pas faire, c'est ce qu'ils disaient tout à l'heure devant le Parlement.
Alors justement, Mariam, ces deux attentats ont rapidement été revendiqués par l'État islamique. L'implication de l'Iran dans le conflit syrien n'est un secret pour personne. Malgré tout, les services de sécurité iraniens ont, semble-t-il, été pris de court.
Alors il y avait des risques. Il y a deux mois, l'État islamique avait diffusé, et ça c'est assez inédit, une vidéo en langue persane pour appeler à attaquer l'Iran, disant qu'ils allaient récupérer l'Iran pour le redonner aux sunnites. Donc il y avait un risque qui pesait effectivement sur ce pays. Les autorités iraniennes ont régulièrement communiqué sur les démantèlements des cellules terroristes. Les attentats déjoués, il y a eu notamment un attentat assez important qui devait avoir lieu dans le métro de Téhéran qui a été déjoué l'année dernière. Donc effectivement, les officiels iraniens ont beaucoup mis en avant, notamment Ali Shamkhani qui est le secrétaire général de la sécurité iranienne, qui disait que les Iraniens avaient connu le terrorisme, notamment après la révolution islamique avec les Moudjahidines, et que les services de renseignement étaient puissants, assez puissants pour pouvoir contrer toute tentative d'attentat, notamment de Daesh sur le territoire iranien.
Mais en frappant l'Iran, est-ce qu'on sait malgré tout, Mariam, ce qu'ont voulu démontrer les djihadistes ?
Les djihadistes ont voulu montrer sûrement que l'Iran pouvait être touché. Et c'est effectivement, lorsque vous regardez sur une carte, l'Iran se situe à 900 km de la Syrie, partage une frontière avec l'Irak, avec l'Afghanistan, avec le Pakistan. Et finalement, l'Iran apparaît comme un pays très stable dans la région, en tout cas politiquement, et d'un point de vue de sécurité intérieure. C'est-à-dire que l'Iran a été touché aujourd'hui, cela a surpris tout le monde, des Iraniens aux officiels qui d'ailleurs ont très peu communiqué dessus, même la télévision d'État et la radio ont mis du temps à annoncer ces attaques. Donc les djihadistes ont voulu dire que cette république islamique chiite, qui était, et ça il faut le savoir, était autant ciblée que des pays européens, pouvait être attaqué à son tour par l'État islamique.
Dans quelle mesure cela peut-il mettre en difficulté Hassan Rouhani, réélu il y a trois semaines à peine à la présidence iranienne ?
Eh bien, cela peut effectivement donner du grain à moudre à ses détracteurs, notamment aux partis conservateurs qui ont eu de cesse de lui reprocher sa politique d'ouverture. D'ailleurs, les premières critiques ont commencé à émerger de certains parlementaires, de certains officiels en disant que cette politique d'ouverture menait à des attaques. Mais pour le moment, ces critiques sont vraiment minoritaires et elles vont le rester parce que... justement, il va y avoir un appel à l'unité. Finalement, les Iraniens ont une capacité assez de résilience assez importante. C'est-à-dire que les Iraniens avec qui j'ai parlé aujourd'hui me disent tous « Voilà, c'est arrivé, on reprend, la vie reprend son cours. » D'ailleurs, quand on est dans la ville, on prend le métro, lorsqu'on est dans un taxi, lorsqu'on marche dans la rue, on a l'impression que rien ne s'est passé aujourd'hui. Et c'est ce qui est assez surprenant, c'est-à-dire que la vie a repris son cours aujourd'hui à Téhéran.
Merci à vous, Mariam Pirzadeh, en direct de Téhéran. Où règne donc un calme très relatif. Les gardiens de la révolution, les soldats d'élite iraniens, accusent ce soir les États-Unis et l'Arabie d'être impliqués dans les attentats de ce matin. Implication démentie dans la foulée par un responsable saoudien.
Le terrorisme qui est également au centre, hein, Olivier, des préoccupations de Bruxelles. Et comme chaque mercredi, on retrouve notre correspondant sur place en direct.
Oui, nous allons évoquer avec Quentin Dickinson un très vieux sujet, très souvent abordé à Bruxelles, mais qui ne s'est jamais concrétisé, celui de la création d'une défense européenne. Pour la première fois, plus qu'un projet, une feuille de route vient d'être présentée ce matin par la Commission. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Olivier, bonsoir Michael et bonsoir à tous.
Alors les plus enthousiastes, Quentin, parlent d'acte de renaissance de la future défense européenne. Vrai ou faux ?
Eh bien, en fait, on ne le saura avec certitude que dans une dizaine d'années, car plus qu'à peu près partout ailleurs, les programmes militaires s'inscrivent dans la durée. Mais je serais tenté de dire en tout cas qu'il s'agit de la perspective d'une avancée générale notable, puisque cette fois-ci, on mettra de l'argent sur les mots. En 1954, le projet de Communauté européenne de défense était mort-né à la suite du rejet du texte de ratification à l'Assemblée nationale française. Rejet, on peut le rappeler, dû à une alliance de circonstances entre le Parti communiste et l'ancêtre gaulliste des LR actuels. Et pendant près de 40 ans, le sujet était resté tabou. La chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Union soviétique allaient conduire les dirigeants européens à croire à l'illusion d'une paix perpétuelle et donc à une réduction des budgets militaires. Et jusqu'à l'année dernière, on allait bricoler quelques centres de coordination et plusieurs opérations conjointes, pas vraiment une politique commune de la défense. Mais le Brexit a tout bouleversé et depuis lors, la donne a changé fondamentalement. Federica Mogherini a le rôle de chef de la diplomatie commune européenne.
Ce que j'ai vu pendant ces 10 mois a été vraiment un travail d'équipe avec une forte détermination politique de la part des États membres sur la façon dans laquelle chaque institution, soit la Commission, soit l'Agence européenne pour la défense, soit le Conseil, ont vraiment mobilisé, soit l'OTAN aussi, comme partenaire, pas une institution européenne, mais un partenaire, ont vraiment mobilisé toutes leurs capacités, toutes leurs atouts pour arriver à un bout commun, celui de renforcer l'Europe de la défense. Je ne vois pas de frustration à ce regard de la part des États membres. Au contraire, je vois une forte détermination à continuer, avec le même rythme, avec l'unité, à 28 encore, et après, quand ce sera le cas à 27, avec chaque institution jouant son rôle.
Alors qu'en tant que contient ce projet présenté ce matin ?
Bien, essentiellement, il s'agit d'apporter de l'argent frais pour abonder les budgets nationaux de la défense et à encourager les projets communs et les co-entreprises. À la clé, il s'agit aussi d'accélérer les regroupements des industries de la défense, une réforme que les États-Unis, soit dit en passant, ont menée à bien il y a plus de 20 ans. La duplication de matériel concurrent entre eux les rend plus chers et plus difficilement exportables. Beaucoup d'argent sera également mis sur la recherche dans le domaine des armes du champ de bataille du 21e siècle, drones intelligents à long rayon d'action, hélicoptères modulables, satellites tueurs ultra précis ou robots soldats, par exemple. Le Fonds européen de défense, dès 2021, dépassera les 5 milliards d'euros. Cette soudaine accélération vers l'autonomie stratégique des Européens n'aurait pas été envisageable sans le peu de considération de Donald Trump pour ses alliés et n'aurait pas été possible sans le départ des Britanniques qui, jusque-là, avaient bloqué tout embryon de défense européenne.
Décryptage du tout nouveau projet de défense européenne signé Quentin Dickinson, merci à vous en direct de Bruxelles.
À 18h42, rien à voir, direction maintenant l'Argentine, Olivier, l'Argentine où les femmes se sont de nouveau mobilisées cette semaine contre les violences machistes.
Oui, pour la troisième année consécutive, Michael, le collectif Ni Una Menos, pas une de moins, a organisé cette semaine une marche pour dénoncer les crimes machistes commis chaque année dans le pays. Des dizaines de milliers d'Argentines se sont une nouvelle fois mobilisées contre ces assassinats. De plus en plus de femmes meurent là-bas sous les coups des hommes, une situation toujours plus préoccupante. Caroline Vic, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes rendue à ce rassemblement. Est-ce que l'on peut dire, c'est que la mobilisation ne faiblit pas et la société argentine semble véritablement prendre conscience aujourd'hui de la gravité de la situation.
Oui, des dizaines de milliers de femmes étaient présentes, un ruban violet accroché à leur veste, symbole de la lutte féministe en Argentine. Certaines militantes, d'autres venues simplement avec leurs amis, mais avec une revendication commune, mettre fin aux violences machistes et à toutes les violences, physiques, psychologiques, verbales et économiques. L'année dernière, une femme a été tuée toutes les 34 heures en Argentine. Aylen a 18 ans et elle est visiblement émue par ces tristes statistiques.
Le plus dur, c'est de voir chaque jour la photo d'une nouvelle fille qui meurt. Je pourrais très bien être la prochaine, ou ça pourrait être une amie, ou une personne que j'aime. C'est dur aussi de voir qu'aujourd'hui l'État ne répond pas à nos demandes. Pourtant, il y a énormément de monde, de tous les âges, venu marcher avec un mot d'ordre bien précis, qu'on arrête de nous tuer.
Selon les chiffres officiels, 20 femmes de plus que l'an dernier ont été victimes de ces violences machistes.
En 2016, oui, selon des chiffres du registre de la Cour suprême, 254 femmes argentines sont mortes, tuées dans 75% des cas par un conjoint, un ex ou un membre de la famille. Le quart de ces femmes avait préalablement déposé plainte au commissariat, preuve que la police et le système judiciaire ne prennent pas encore toujours au sérieux la violence machiste. La moitié des victimes avaient entre 21 et 40 ans. Mais derrière ces chiffres, il y a des visages, des drames et des larmes. Belén a perdu sa sœur Carolina, de 29 ans et mère de deux enfants, cette année à Salta, ville tristement connue pour le meurtre des deux Françaises et pour son taux record de féminicide. Un jour de janvier, elle annonce à son compagnon que c'est fini et une dispute éclate. Belén.
Le 21 janvier, on a reçu un appel qui nous disait que son compagnon l'avait recouverte d'alcool et l'avait brûlée vive. Ma sœur est décédée 4 jours après, avec 73% du corps brûlé. Ça n'allait pas bien dans son couple, mais elle n'a pas pu se confier. Elle a dû sentir de la honte ou elle n'a pas voulu nous déranger. Et lui, il était lucide quand il a fait ça. Il voulait la détruire, il ne voulait pas que ma sœur parte. Il faut mettre fin à l'immunité dans la province de Salta. 11 féminicides ont lieu depuis le début de l'année et le troisième, c'était ma sœur.
Des victimes tuées parce qu'elles sont des femmes que leurs assassins considèrent comme leur objet et leur possession. C'est cela qu'on appelle le féminicide. Avec le temps, la conscientisation est de plus en plus forte, mais les victimes sont paradoxalement de plus en plus nombreuses. Analyse de Maria Delia Castañares, responsable du Bureau des femmes de la Cour suprême.
Aujourd'hui, il y a plus de visibilité. Avant, il n'y avait pas de chiffres. C'est pareil avec le Bureau des violences faites aux femmes de la Cour suprême. Les cas augmentent et on croit qu'il y a plus de violence. Non. En réalité, maintenant, il existe un endroit où les femmes peuvent demander de l'aide et où elles sont enregistrées. Dans les médias également, on parle beaucoup plus des féminicides. On a arrêté de parler de crimes passionnels. Et la nouvelle a pris plus d'importance. Avant, tout cela ne se voyait pas. Donc, avec des statistiques, on a commencé à mettre un nom sur la mort de ces femmes. Car la raison est clairement le patriarcat. C'est pour cela que ça s'appelle un féminicide. Et en même temps, on a commencé à avoir des chiffres qu'on puisse comparer entre eux.
Les critiques des manifestantes ce week-end, Caroline, visaient notamment le gouvernement. C'était d'ailleurs la principale revendication, mettre fin à la complicité de l'État.
Et cela fait maintenant 3 ans que les Argentines se battent et avec l'arrivée de Mauricio Macri, il semble que les choses ne se soient pas vraiment améliorées. Alors dans ses discours, le président promet des aides aux associations de femmes et des plans d'éradication de la violence. Mais dans les faits, on note moins d'enthousiasme. Explication de Marta Dichon, membre du collectif Ni Una Menos.
D'un côté, le gouvernement tente de s'approprier nos revendications. Macri a déclaré que nous étions tous Ni Una Menos. Mais nous, on dit que non. Ni Una Menos, ce sont nous, toutes les femmes qui descendent dans la rue et qui veulent un changement. Il ne peut pas crier Ni Una Menos, car c'est un président qui retire ses subventions de plans de santé sexuelle et reproductive, qui vide les programmes d'éducation sexuelle, qui a affirmé il y a un an et demi que toutes les femmes aimaient qu'on leur regarde les fesses. D'autre part, c'est un sujet qui fait l'actualité. Il y a une intention de répondre aux demandes. Il y a maintenant un plan qui vise à éliminer les violences contre les femmes, mais c'est un plan insuffisant, sans volonté politique, et qui s'inscrit dans le cadre d'ajustements économiques qui appauvrissent fondamentalement les femmes.
Malgré des mesures jugées superficielles, des lois qui s'appliquent peu et un manque d'informations, la sensibilisation augmente, les associations aidant à la cause des femmes se multiplient et des statistiques officielles ont fait leur apparition. Autant de facteurs qui permettent d'améliorer la situation et de donner un peu de courage et d'espoir aux victimes.
Caroline Vic en liaison avec nous depuis Buenos Aires, problématique des violences machistes que l'on retrouve, Michael, un peu partout sur le continent sud-américain et notamment au Chili ou au Brésil.
Et on en parle souvent ici même. Merci beaucoup Olivier Poujade. À demain.
Le 18-20, Michael Thébault. Un jour dans le monde.
Et à 18h48, direction Berlin, c'est, vous le savez, notre rendez-vous avec la campagne des législatives allemandes. Vote le 24 septembre prochain, Angela Merkel qui brigue un quatrième mandat de chancelière. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Correspondant permanent de France Inter à Berlin. Alors Cyril, un thème domine en ce moment cette campagne, c'est celui des retraites.
Et le sujet est sensible dans ce pays vieillissant qu'est l'Allemagne, où l'on compte plus de 20 millions de retraités. Un électorat essentiel, incontournable même pour espérer gagner une élection. En 2030, quand les baby-boomers partiront à la retraite, la situation va devenir préoccupante pour le pays, puisqu'un tiers des Allemands auront plus de 65 ans. Une bombe à retardement pour le système de retraite. La réforme, lancée en 2005 par Gerhard Schröder, mise en œuvre depuis par Angela Merkel, visait à sauver le système par répartition. Avec l'âge du départ à la retraite repoussé de 65 à 67 ans, des pensions revues à la baisse et un développement à marche forcée des retraites par capitalisation. L'arrivée d'un million de réfugiés ne suffira pas, estiment les spécialistes, à contrebalancer le déclin démographique. Une fois encore cette année, donc, l'avenir des retraites sera au cœur du débat pendant la campagne électorale.
Et l'inquiétude, Cyril, porte tout particulièrement sur les retraités pauvres.
Et ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux même. 3,5 millions à vivre sous le seuil de pauvreté. Selon l'OCDE, le risque de vieillir pauvre est 3 fois plus important en Allemagne qu'en France. Là non plus, l'avenir n'annonce rien de bon avec le développement des jobs à temps partiel, des emplois précaires. Le salaire minimum qui a été instauré par la Grande Coalition, 8,50 € de l'heure, est jugé très insuffisant pour garantir une retraite supérieure aux minima sociaux. Ce qui fait dire au parti de gauche, Die Linke, que l'Allemagne est certes un pays riche, mais un pays riche avec des retraités pauvres, des retraités qui sont descendus plusieurs fois dans la rue ces derniers mois pour manifester et pour dire leur inquiétude.
Et que proposent précisément, Cyril, les différents candidats alors ?
Eh bien, pour tenter d'abord de tirer leur épingle du jeu face à Angela Merkel, qui semble, il faut le dire, bien partie pour un quatrième mandat, les sociaux-démocrates, le SPD, essaient de se positionner comme les défenseurs des retraités et des travailleurs. Martin Schulz, le candidat SPD, a présenté ce midi son projet pour les retraites. 3 mesures clés, 3 promesses. D'abord, l'âge de départ ne sera pas repoussé au-delà de 67 ans. Ensuite, les cotisations des salariés n'augmenteront pas d'ici 2030. Et enfin, une retraite de solidarité sera mise en place pour permettre aux plus modestes de s'en sortir. On retrouve des propositions similaires chez les écologistes et chez Die Linke, le parti de gauche qui promet une retraite minimum de 1 000 € par mois. Le SPD, qui vient de gouverner en grande coalition pendant 4 ans avec Angela Merkel, va enfin tenter de capitaliser sur son propre bilan, puisque les sociaux-démocrates ont obtenu la mise en place d'une mesure importante, très appréciée des syndicats, la retraite à 63 ans pour ceux qui ont cotisé le plus longtemps pendant leur carrière.
Et du coup, que répond la CDU, le parti d'Angela Merkel, Cyril ?
Eh bien, il ne répond rien du tout pour l'instant. D'accord. La chancelière attend le bon moment pour avancer ses propositions, déjà pour vraiment entrer en campagne. Mais en réalité, le débat en interne n'est pas tranché. Certains, comme le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, suggère de repousser à 70 ans l'âge de départ à la retraite, 70 au lieu de 67. Et c'est une mesure qui est jugée inévitable pour maintenir le système à flot sur le long terme. Mais une telle décision est forcément impopulaire, difficile à vendre à quelques mois des élections. Le passage à 70 ans est pourtant défendu par beaucoup de décideurs économiques en Allemagne et par toute une partie des chrétiens démocrates. Angela Merkel, elle, va sans doute essayer de s'appuyer sur son propre bilan pour convaincre les électeurs. Et la CDU devrait notamment mettre à son compte la hausse des pensions pour les mères de famille. Et puis, elle devrait plaider encore et toujours la prudence, la rigueur budgétaire, puisque bien des comptes publics à l'équilibre, c'est encore la meilleure façon de préparer l'avenir, c'est ce que répète souvent Wolfgang Schäuble.
Cyril Sauvageau, correspondant de France Inter à Berlin. Merci beaucoup Cyril.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et à 18h53, c'est l'heure de l'édito. Bonsoir Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde.
Bonsoir Michael.
Alors ce soir Arnaud, on joue, dites-vous, au jeu de la peste et du choléra, c'est ça?
Eh bien oui Michael, êtes-vous W ou Trump? Selon vous, quel fut le pire président des États-Unis pour l'Europe, Donald Trump ou George W. Bush entre 2001 et 2009? Alors on le sait, en ce moment, chacun s'indigne contre Donald Trump, qui sort de l'accord sur le climat, insulte l'Allemagne, menace l'OTAN. Un crime contre l'humanité, nous disent déjà les écolos. Mais vous avez tous la mémoire courte. Rappelez-vous, Bush, on a aimé le détester. À peine mal élu, W commença par refuser le protocole de Kyoto. C'était la première tentative occidentale de lutter contre le réchauffement climatique. Après le 11 septembre 2001, le président républicain divisa l'Europe durablement. Son secrétaire à la défense, Donald Trump, ricanait en opposant la nouvelle Europe, celle des anciens pays communistes de Blair et d'Aznar, contre la vieille Europe, la nôtre, celle de Chirac et de Schröder, qui refusaient obstinément son expédition en Irak. Bush bafoua les valeurs de l'Occident avec l'invention des armes de destruction massive de Saddam Hussein, les tortures dans les prisons secrètes de la CIA, l'arbitraire à Guantanamo. Alors, dans ce contexte, Michael, Trump, il a l'air du catcheur, du faux dur qui ne ferait que du chiquet comparé à W. Bush.
Donc, en clair, Bush était pire.
Ah oui, c'est ce que nous croyons, vous m'avez bien écouté, mais j'ai eu ma consultation hebdomadaire avec Hubert Védrine, comme avant chaque chronique. Eh bien, il m'a expliqué, nous sommes dans l'erreur, explique l'ancien ministre des Affaires étrangères français. Certes, les actes de Bush fils étaient autant de conflits, mais jamais, jamais un président américain n'avait mis en doute l'OTAN et l'activation du fameux article 5 qui force à proposer l'assistance à un pays qui serait attaqué. Alors les pulsions, pour reprendre l'expression de Védrine, seraient révélatrices d'un éloignement inexorable des États-Unis de l'Europe. Pour Védrine, Européens et Américains, je cite, risquent de redevenir ce qu'ils étaient au 19e siècle et au début du 20e siècle, des cousins issus de Germains très éloignés. Un grand bond en arrière de deux siècles, digne de la doctrine du président James Monroe qui, vous l'avez appris, Michael, exigea en 1823 que les Européens ne s'immiscent plus dans les affaires du Nouveau Monde et en échange, les Américains ne s'ingéreraient jamais dans celles de l'Europe.
Et ce bond en arrière effacerait l'alliance fondée en 1945.
Et exactement, ce retour en arrière est absolu. Et profitons-en pour rendre hommage à un président américain oublié, méconnu, Harry Truman, dont aucune rue, on a cherché sur Google, ne porte son nom en France. Alors en fait, l'ancien vice-président de Roosevelt, qui dirigea les États-Unis de 1945 à 1953, porte une tâche indélébile, les deux bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Mais il mit en place l'ordre de l'après-guerre, en tirant les conséquences des erreurs commises après 14-18. Pour cela, il fallait contrer deux visions fallacieuses, celle des Français qui ne voulaient pas traiter les Allemands en égaux et celle des Anglais qui toujours pensent que l'équilibre des puissances est suffisant et qu'il n'y a pas besoin d'institutions. Eh bien, Trump corrigea tout cela, un État démocratique et bourgeois pour l'Allemagne, c'était la République fédérale d'Allemagne, des organisations solides, l'OTAN pour la défense, la communauté du charbon et de l'acier pour éviter la guerre économique et la guerre tout court, et pour finir, un plan Marshall pour assurer la prospérité et stopper le communisme. Résumé de Védrine, à l'époque, la politique américaine a été formidable.
Bon, est-ce que de cette crise actuelle peut naître un bien pour l'Europe?
Écoutez, c'est toujours le sujet, on s'en tiche, on s'emballe, mais on l'a vu pendant la guerre en Irak, le gaullisme. Pendant le gaullisme et la guerre au Vietnam, quand les États-Unis vont mal, l'Europe ne se renforce pas, elle se divise, elle recule. Alors il y a une exception, c'est l'abandon en 1971 de la convertibilité hors du dollar. Le secrétaire au Trésor du président Nixon avait dit à l'époque « Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème ». Et bien, en réalité, pourtant, il s'agit du seul exemple où les Européens surprofitaient du chaos américain. Dès 1972, Georges Pompidou et le chancelier allemand Willy Brandt lancent le serpent monétaire européen qui donnera 20 ans plus tard l'euro. Alors aujourd'hui, les plus optimistes espèrent que Trump forcera les Européens à s'unir, notamment dans la défense. Encore un effort, monsieur Trump, et vous figurerez aux côtés des pères fondateurs de l'Europe.
Ouf, tout est dit. Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde, merci. Dans une vingtaine de minutes, un téléphone sonne spécial législatif, s'il vous plaît. Premier tour dimanche, 577 circonscriptions, 7882 candidats et une question principale finalement. La République En Marche va-t-elle gagner son pari? Autrement dit, aura-t-elle la majorité absolue à l'Assemblée? Oui, selon les sondages, on verra. En tout cas, on attend toutes vos questions, vos commentaires, dès maintenant au 01 45 24 7000, internetfranceinter.fr, Twitter, hashtag Tilson, et dans moins d'une minute, un nouveau journal.